Eh bien, avant d'ouvrir la parole de Dieu, je vous propose encore de baisser la tête un moment. Te prions, Seigneur, de nous éclairer maintenant à travers ta parole. Tu sais combien nous en avons besoin, que souvent, c'est notre naturel qui conduit nos vies et non pas ton esprit. Et donc nous te prions, Seigneur, que ce temps de repos, de paix que nous avons ensemble dans la communion fraternelle soit bien utilisé pour chacun, pour recevoir, comprendre et mettre en pratique aussi ta parole, non seulement pour aujourd'hui, mais également durant tous les jours de la semaine qui vient. Et que, Seigneur, tu puisses nous enrichir par elle, nous faire du bien et fortifier, affermir notre foi. Et puis si peut-être il y a quelqu'un ici qui est en recherche de vérité, que Seigneur tu puisses lui parler et lui montrer que tu es celui qui a donné sa vie et que ainsi par la foi, eh bien cette personne peut recevoir de ta part le salut dont elle a besoin. Donc merci d'avance pour toutes ces choses, pour l'éclairage de ton Saint-Esprit et pour ton amour pour nous. En ton nom. Amen. Alors, frères et sœurs, c'est un petit peu dans la continuité d'il y a deux semaines. Voilà, apprenons les uns les autres à nous aimer comme le Seigneur nous a aimés. Le Seigneur Jésus nous a aimés. Alors, ce n'est pas moi, bien sûr, qui vous le demande. Vous en doutez bien, mais vous savez que dans l'évangile de Jean, alors on a vu ça en étude biblique aussi, au chapitre 15 et au verset 12 notamment, mais il en est question dans d'autres versets aussi, le Seigneur Jésus a dit à ses disciples, « Ceci est mon commandement, ou c'est ici mon commandement, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. » L'évangile de Jean, au chapitre 15 et au verset 12. Et puis, comme pour illustrer son propos, par son propre exemple, Jésus, toujours, dit tout de suite après, dans les versets 13 et 14, « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis, et vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. » Voilà, et donc j'aimerais... pour cette fois-ci, prolonger la méditation que nous avions eue donc, il y a deux semaines au sujet de l'amour de Dieu entre les hommes, en y apportant deux caractéristiques nouvelles qui sont des caractéristiques de la manifestation du véritable amour de Dieu, mais que nous pouvons nous-mêmes à présent, en tant qu'enfants de Dieu, exercer les uns envers les autres. Alors, rappelez-vous ce que nous avions déjà vu ensemble sur la base de l'amour de Dieu. Eh bien, que son amour, avant toute chose, était inconditionnel pour ses créatures, donc que nous sommes tous, parce que Dieu nous en a donné de multiples preuves et nous avions regardé cela. Et en particulier, la première de ces preuves, c'est qu'il nous a élus avant la fondation du monde et de manière inconditionnelle. Et ça nous pose souvent des problèmes dans nos relations avec les autres parce que nous avons souvent pour l'autre un amour conditionnel, n'est-ce pas? Et donc on a beaucoup à apprendre de Dieu sur son amour inconditionnel pour nous. Et que rien, donc, parce qu'il est inconditionnel, ne nous séparera. Là aussi, on a beaucoup à apprendre de l'amour de Dieu qui a été manifesté dans notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et puis, nous avions vu également une deuxième manifestation de l'amour de Dieu. C'est le fait que Jésus-Christ a donné sa vie à la croix pour les hommes pécheurs que nous sommes tous. Et il nous a donné donc une preuve, la preuve ultime qu'il nous avait aimés et qu'il nous aime tel que nous sommes. Et il a donné sa vie pour ses ennemis, nous dit la parole, car nous en étions à cause de nos péchés. Et c'est la deuxième preuve d'amour qu'il nous donne. Et puis, rappelez-vous aussi, une troisième manifestation véritable de l'amour de Dieu, et que nous, ces enfants que nous sommes devenus, parce que le Seigneur est mort pour cela, pour que à notre tour, par la foi, nous approchions de lui, eh bien, la troisième manifestation d'amour, c'est que il nous a arrachés des griffes du diable pour nous transporter dans sa famille spirituelle. Et donc, le fait qu'il nous a adoptés dans sa propre famille spirituelle est encore une autre preuve de l'amour véritable que Dieu a manifesté pour chacun de ses enfants. Et vous savez que dans une famille, eh bien, et c'est le but de Dieu, c'est que nous ayons donc avec lui, de manière verticale, et avec tous les enfants de Dieu, d'une manière horizontale, une vie spirituelle, avec une relation privilégiée et intime avec, entre chaque enfant de Dieu et aussi avec le Seigneur. Et puis, enfin, nous avions vu une quatrième manifestation de l'amour véritable de Dieu pour nous, et que il veut, par amour pour nous, ne pas nous laisser tels que nous sommes, tels qu'il nous a pris en tant qu'enfants de Dieu, mais il veut notre croissance. Il veut que nous puissions nous transformer à l'image de ce qu'est son Fils bien-aimé, pour atteindre le but en réalité que Dieu a fixé pour eh bien, ses créatures, et en particulier ses enfants, l'adorer et le servir. Et voilà quatre manifestations de l'amour de Dieu, et on pourrait décliner ces quatre manifestations véritables de l'amour de Dieu en bien d'autres branches, si j'ose dire, de son amour. Et on est loin d'avoir fait le tour, n'est-ce pas? Eh bien, le serviteur n'est pas plus grand que son maître. Nous aussi, à notre conversion, à notre nouvelle naissance, et j'espère que cela est vrai pour la majorité d'entre nous ce matin, nous avons reçu par la puissance de l'Esprit de Dieu un cœur nouveau, une vie nouvelle, donc capable d'aimer comme le Seigneur nous a aimés. Et ça, c'est une réalité. Même si dans la réalité pratique, il y a encore pour chacun de nous beaucoup, énormément de progrès à accomplir. D'abord, aimer de la manière dont Dieu aime, c'est accepter, recevoir l'autre tel qu'il est. Et ça, ce n'est pas naturel. Et nous avons besoin donc de l'assistance, de la puissance, du Saint-Esprit qui nous a été donné pour accomplir cela, n'est-ce pas, dans nos relations les uns avec les autres. Et cela ne veut pas dire que accepter l'autre tel qu'il est, c'est accepter le péché. Non, c'est accepter le pécheur et lui, de manière inverse, réciproque, fait de même avec moi. C'est d'accepter le pécheur tel qu'il est. Et puis lorsqu'on aime le pécheur, eh bien, aimer comme Dieu aime consiste aussi à désirer, s'il ne l'est pas encore, et si tel est mon prochain, eh bien, à ce qu'il puisse parvenir à la connaissance du Dieu de Jésus-Christ, pour qu'à son tour, il soit sauvé. Et ensuite, aimer comme Dieu aime, c'est le voir progresser. C'est le voir eh bien, être transformé dans sa vie par le Seigneur Tout-Puissant et par son Esprit. Et vous savez que à ce moment-là, le cadre de vie qu'est l'Église locale est particulièrement propice, approprié pour que cette connaissance, cette croissance dans l'amour de Dieu puisse se faire dans chacun de nous. et que cela puisse s'opérer par l'action du Saint-Esprit. Et par conséquent, je ferai une petite conclusion, tous les chrétiens devraient, je dirais même, doivent, c'est une obligation, un devoir, eh bien en sachant tout ça, d'appartenir à une église locale en tant que membre du corps de Christ, parce que le Seigneur l'a voulu ainsi, pour que chacun puisse se connaître et se stimuler mutuellement pour que eh bien, on puisse les uns et les autres se stimuler à progresser dans l'amour de Dieu et dans la connaissance de sa grâce. Alors, si j'ai bien compris ça, c'est un bon début. Mais aimer comme Jésus aime n'est pas quelque chose de théorique. C'est quelque chose qui doit se manifester de manière concrète. Et c'est ce que j'aimerais regarder avec vous à travers un texte de la parole. Et donc pour en parler, j'aimerais mettre le doigt là ce matin sur deux caractéristiques, deux manifestations de l'amour véritable de Dieu que nous pouvons nous-mêmes également, à travers notre vie, à travers notre comportement, eh bien, exercer les uns vis-à-vis des autres. Et donc, je vous invite à prendre avec moi dans l'évangile de Luc, au chapitre 10, un passage bien connu, c'est une parabole. Luc chapitre 10, à partir du verset 30. Luc chapitre 10, à partir... Et nous pouvons prendre à partir du verset 25, mais pour comprendre le contexte. Alors, c'est un docteur de la loi, probablement un scribe, qui interroge le Seigneur Jésus. Et alors, à travers une parabole, Jésus va lui répondre. Et on va retrouver dans cette parabole du bon samaritain en filigrane ces deux manifestations d'amour réunies, dont j'aimerais regarder avec vous. Donc, Luc chapitre 10, à partir du verset 25, pour le contexte. Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus pour l'éprouver. « Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui dit « Qu'est-il écrit dans la loi ? Qui lis-tu ? » Il répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » « Tu as bien répondu, lui dit Jésus, fais cela et tu vivras. » Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, « Et qui est mon prochain ?» Jésus reprit la parole et dit, c'est la parabole qui va nous intéresser. Un homme, alors je rajoute probablement un juif, parce qu'il descendait de Jérusalem à Jéricho. Et donc en général, ce sont les juifs qui faisaient une telle démarche. Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui fortuitement descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Mais un samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira deux deniers, les donna à l'hôte et dit « Aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. » Lequel de ces trois te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands ? La réponse semble évidente, n'est-ce pas ? Et il répond, « C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. » Et Jésus lui dit, « Va, et toi, fais de même. » C'est comme si, frères et sœurs, Jésus me disait ce matin, « Tu as bien répondu. » Si Jésus devait te poser la même question, Et il me dit à moi, va, et toi, fais de même. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que nous faisons de même dans notre vie de tous les jours? Ou cette demande de Jésus est loin de moi dans la réalité? Pourtant, lorsque j'y réfléchis, je suis devenu croyant, mais chrétien. J'ai l'Esprit de Dieu. Et pourtant, dans ma vie de tous les jours, je dois constater que ce qu'a fait cet homme pour venir au secours de son prochain, je peux me demander, peut-être depuis quand ne l'ai-je pas fait moi-même, d'une manière ou d'une autre. Aimer comme Jésus aime, c'est la première manifestation que l'on voit en filigrane, parce qu'elle n'est pas explicite dans cette parabole, ce qui doit caractériser quelqu'un qui aime du véritable amour de Dieu, ça consiste à se sentir responsable de la situation de l'autre. Et donc, à se sentir aussi, parce que ça va ensemble, responsable de son bien-être, de son prochain, ça peut être de son prochain, de son frère ou de sa sœur, en Jésus-Christ. Et donc, d'agir en conséquence. Il ne suffit pas de sentir quelque chose, c'est se sentir en vue de faire quelque chose. Et donc, d'agir en conséquence. C'est ça, l'amour de Dieu. Ce n'est pas un amour théorique en parole, mais celui qui ressent quelque chose, qui a de la douleur pour quelque chose qui lui est extérieur, alors l'amour va lui dicter d'agir en conséquence, en faveur de l'autre. Avoir soin de l'autre, prendre soin de l'autre. Et ça revient dans le texte à deux reprises, au verset 35 et 36, on ne va pas les relire, mais vous l'avez probablement encore devant les yeux. Il a déjà ressenti au fond de lui, dans son cœur, de la compassion. Et à plusieurs reprises, il est dit dans les évangiles qu'à l'égard des foules, Jésus a été ému de compassion pour ces foules. Et vous savez que la compassion, c'est ce mouvement intérieur de pitié, de tristesse qui va se manifester à l'extérieur de soi dans un mouvement de bienveillance et de bienfaisance en faveur de l'autre. Ça reste jamais à l'intérieur. Ça traverse l'intérieur pour se manifester à l'extérieur. C'est ça la vraie compassion, le véritable amour de Dieu. Pourtant, on voit là, donc cet homme qui a secouru a été, s'est senti responsable et concerné par la situation de son prochain, qui souffrait, qui était blessé, et il lui a porté secours. Et lorsqu'on voit les deux autres hommes là, qui sont apparemment, au vu de l'identification qui est faite, des hommes de bonne réputation, voyez-vous ça, un sacrificateur, oh, un lévite, oh, des gens d'une bonne réputation. Mais pourtant, l'un comme l'autre ont manqué à tous leurs devoirs. Simplement, pourquoi? Parce qu'il n'aimait pas. Et parce qu'il n'aimait pas, alors ils ont tous les deux passé leur chemin. Peut-être que lorsqu'on y réfléchit bien et lorsqu'on lit la parole de Dieu, eh bien, on peut voir qu'un sacrificateur et un lévite sont tous les deux versés dans la parole de Dieu. Il pourrait vous citez un tas de versets par cœur, et là vous seriez impressionnés, frères et sœurs, de voir ces choses. Et lorsque ça m'a arrivé plusieurs fois, c'est vrai, de discuter avec des personnes d'origine juive versées dans les Écritures, mais étrangers au salut en Jésus-Christ, qui j'étais impressionné de voir comment ils connaissaient l'Ancien Testament. Et c'est vrai. Mais cela était resté théorique chez ces deux hommes. Et ça n'avait pas transformé leur cœur. Dieu ne regarde pas aux apparences ce qui peut impressionner les hommes. Mais Dieu regarde au cœur. Et il savait très bien que chez ce sacrificateur et chez ce lévite, il n'y avait pas d'amour dans le cœur. Et donc, tous les deux ont passé leur chemin. Ce principe du sens de responsabilité pratique à l'égard de son prochain ou de son frère ou de sa sœur se retrouve partout dans la parole. Et j'aimerais prendre quelques exemples si vous le voulez bien. Dans Genèse chapitre 4, regardez avec moi. Genèse chapitre 4. On y voit donc Caïn se présenter devant Dieu avec le fruit de son propre travail. Et puis, on connaît l'histoire, Abel, son frère, se présente également devant Dieu, mais lui a un comportement qui plaît à Dieu. Alors, on ne va pas revenir dans les détails, mais on sait que parce que Caïn a été pris de jalousie envers son frère, il s'est jeté sur lui et a fini par le tuer. Alors, lisons les versets 8 et 9 de Genèse chapitre 4. Dieu intervient. Cependant, nous dit le verset 8, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Mais comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. L'Éternel dit à Caïn, « Où est ton frère Abel ?» Il répondit, « Je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère ?» Ça vous a jamais interpellé, ça, cette question? Bien sûr que oui, Dieu savait très bien où était Abel. Il est Dieu. Et il savait très bien ce qui s'était passé. Il savait très bien ce qu'il y avait dans le cœur de Caïn et dans le cœur d'Abel. Mais c'était comme pour l'interpeller et montrer à Caïn combien il était responsable de son frère, de son propre frère. Alors, la réponse de Dieu n'est pas formellement ou explicitement donnée, puisqu'il s'agit là d'une question posée par Caïn. Mais la réponse de Dieu se déduit du contexte. Oui, tu es responsable de ton frère, mais tu n'as pas été concerné par son bien-être. Tu étais jaloux et tu l'as tué. Caïn était-il le gardien de son frère? Oui, il en était responsable. C'est la première fois que l'on voit ce principe de responsabilité d'un frère vis-à-vis de l'autre dans la parole de Dieu et qui nous donne par le Nouveau Testament une nouvelle lecture en Jésus-Christ, lorsque cela s'exerce dans l'Église. Et donc, dans l'Église de Dieu, je suis, d'une certaine manière, le gardien, oui, de mon frère, de ma sœur, concerné par la situation de l'autre, concerné peut-être par ses difficultés. Et ça doit se traduire par quelque chose d'extérieur à soi-même et non pas rester au fond de soi. Oh oui, je compatis frère ou sœur à ta situation et parce que ça m'arrange bien, alors je reste les bras croisés. Non, l'amour de Dieu n'est pas théorique, il est pratique, il est concret et il se manifeste extérieurement à soi par un forcément Autrement, ce n'est pas l'amour de Dieu. Par un acte de bienveillance, par un acte de bienfaisance. Et donc, oui, nous sommes tous les uns et les autres le gardien des uns et des autres. Telle est l'une des caractéristiques du véritable amour de Dieu lorsqu'il demeure dans mon cœur. Alors, on peut se poser des questions à partir de là. On peut réfléchir. Un peu plus en avant, dans l'Ancien Testament, dans le livre d'Ézéchiel, allons-y, chapitre 33, pour montrer ce principe de responsabilité que l'on a à l'égard de l'autre. Ézéchiel, chapitre 33, c'est après Jérémie. Alors, je lirai des versets 7 à 9. Quand je dis aux méchants, méchant, tu mourras si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa voie. Ce méchant mourra dans son iniquité et je te redemanderai son sang. Mais si tu avertis le méchant pour le détourner de sa voie et qu'il ne s'en détourne pas, il mourra dans son iniquité et toi tu sauveras ton âme. Alors il y a beaucoup de passages dans Ézéchiel, j'ai pris celui-là, il y en a d'autres, où, qui montrent qu'au-delà de cette notion de gardien, comme on vient de le voir avec Caïn et Abel, Dieu nous établit aussi comme sentinelle dans l'Église de Christ. Et vous savez qu'une sentinelle, lorsque elle est bien à son poste, parce qu'il faut déjà qu'elle soit à son poste, mais lorsqu'elle est bien à son poste, alors n'a pas le droit de s'endormir. C'est vrai, hein ? Et il en est de même pour, dans le domaine spirituel. Sa vigilance doit être de tous les instants pour veiller à ce que la situation, en quelque sorte, ne se dégrade pas autour de lui. C'est ça, être sentinelle. Et donc, si jamais il y avait quelque chose qui ne va pas, eh bien, il a les pouvoirs, on lui en a donné la responsabilité, eh bien, de faire quelque chose. Et pas simplement de faire un constat qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ça, c'est une mauvaise sentinelle. Peut-être d'avertir les autres pour... faire une action ensemble. Mais au moins, il ne fait pas que constater. Et effectivement, je suis donc, d'une certaine manière, cette sentinelle-là que Dieu veut que je sois dans son Église, pour veiller, pour avertir, pour exhorter si besoin son frère, sa sœur, si il est ou si elle est sur une mauvaise voie, comme ce texte d'Ézéchiel 33 nous le fait comprendre. Mais attention, sous réserve qu'on aura veillé au préalable à son propre cœur. Il ne s'agit pas de reprendre quelqu'un, même dans l'amour de Dieu, si moi-même je suis en faute, car ce serait être hypocrite devant Dieu. Non, si j'ai la conscience pure dans l'amour et dans la douceur que Dieu peut me donner, oui, à ce moment-là, j'ai cette responsabilité, je me sens responsable de ce qui arrive autour de moi, et en particulier dans l'Église, pour veiller, en particulier. C'est cette responsabilité est vraiment la preuve d'un véritable amour pour l'autre, et on a besoin, frères et sœurs, de nous rappeler que Dieu nous a donc établis comme gardien, comme sentinelle, les uns vis-à-vis des autres, pour veiller avec amour sur la famille spirituelle qu'il nous a donnée. Hébreux chapitre 10, verset 24, nous dit même « Veillons les uns sur les autres ». Ça, c'est la sentinelle. Ça, c'est le véritable amour de Dieu lorsqu'il est fait d'une manière désintéressée. Parce qu'on est concerné par la situation de l'autre et par son bien-être. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres, N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Cela signifie, peut-être dit autrement, que tout homme, toute femme, je dirais valide, et je pense que pour la majorité d'entre nous ici, c'est le cas. Je ne dis pas pour tout le monde. Eh bien, nous devrions être présents à l'appel de l'Église, qui est en fait l'appel du Seigneur Jésus, qui a délégué cela à l'Église. Pour la prière en commun, pour le partage biblique en commun. Parce que c'est ainsi que nous allons prendre connaissance des situations qui existent dans l'Église. Parce qu'elles auront été, par les uns et par les autres, partagées. Bien sûr, il ne faut pas avoir peur de faire cela. Et ainsi, nous allons prier pour cette situation. Ça, c'est une action de bienfaisance, que de prier, d'intercéder le Seigneur en faveur d'une situation qui est connue chez un frère ou une sœur qui a ces difficultés-là. Et donc, et pourquoi pas peut-être lui venir en aide d'une manière ou d'une autre, si cela est possible. Et il y a un autre texte aussi bien connu, malheureusement, qui est peu appliqué dans les églises. Alors après, on pourra donner les raisons, mais on le trouve dans Matthieu chapitre 18, verset 15. Et qui nous parle, qui rapporte en fait la démarche ou la procédure du Seigneur Jésus à appliquer dans l'église locale quand on rencontre une telle situation. Ah oui, mais alors quelle situation ? Matthieu, chapitre 18, on y va. Matthieu, chapitre 18, verset 15. Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Ça, c'est une sentinelle. Nul besoin d'aller plus loin dans la lecture de ce passage. Parce que j'aimerais y rattacher le verset 22, qui est là un peu plus loin, qui concerne le pardon où Jésus dites à Pierre, si tu dois pardonner, ce n'est pas une fois ou deux fois, c'est bien plus. Et donc, toute situation de ce type que vue ou vécue dans l'Église doit pouvoir être réglée à la fois par la confession de l'un et le pardon de l'autre, sans qu'il soit toutefois nécessaire de passer à la deuxième phase de la procédure enseignée par Jésus dans ce passage à partir du verset 16. La première devrait suffire. Pas besoin d'aller plus loin. Ça se fait d'une manière discrète. Mais parce que l'un va se sentir responsable, concerné par la situation de l'autre, alors il ne va pas mettre... il ne va pas rester sans rien faire. Bien sûr, il faut que ces choses se fassent dans l'amour de Dieu. Mais souvent, je sais que dans cette situation, parfois, que dont j'ai connaissance, que je sais anormale, eh bien, je me dis, bon, sa vie est peut-être un peu dans le désordre, mais je vais le laisser tranquille. Moi, j'ai tellement de choses à faire de mon côté, je vais le laisser tranquille. Et puis avec le temps, peut-être, les choses vont être meilleures. Non, ce n'est pas ce que la parole de Dieu nous enseigne. Et ce n'est pas ce que Jésus nous enseigne dans ce passage. Savez-vous qu'en agissant de cette façon, à laisser les choses... le péché prendre le dessus sans rien dire ou sans rien faire, je ne suis pas mieux, frères et sœurs, que le sacrificateur et le lévite de cette parabole. Je ne suis pas mieux. Parce qu'ils ont passé leur chemin. Ils ont vu qu'il y avait une situation anormale ils ont continué leur chemin. Mais est-ce que je ne fais pas pareil, moi ? Dans bien des situations ? Je ne parle que de celle-ci, mais il y en a plein d'autres. Pas forcément au regard d'un péché. Ça peut être une situation quelconque. Au contraire, dans l'amour de Dieu, la parole dit « va, reprends-le ». C'est peut-être la chose la plus difficile à faire. C'est vrai. Ça va coûter à celui qui va faire cette démarche, certainement. Mais cette tâche incombe pourtant à tout enfant de Dieu, et pas seulement les responsables de l'Église. Parce que ça doit se faire entre deux personnes, pas plus. Pas besoin que l'un aille dire au responsable « Ah, j'ai constaté que là, c'est se défausser de sa propre responsabilité en la mettant sur le dos d'un responsable. » Pas du tout. Si tu constates, c'est à toi à faire la démarche. C'est clair dans la parole de Dieu, dans la discrétion, dans la douceur, dans l'amour de Dieu. Et c'est là, frères et sœurs, une marque d'amour lorsque c'est fait de cette façon, avec tact, dans l'intérêt et le bien de l'autre. Maintenant, j'aimerais me mettre à la place de celui qui est repris. Ça peut être vous, ça peut être moi. Et si cela m'arrive un jour, eh bien, je dois accepter cela comme venant du Seigneur, que je sois repris de cette façon. Parfois, ça touche mon amour propre, hein. Ça peut toucher mon amour propre. Mais je sais que c'est pour mon bien. Et que par amour pour les seigneurs et pour moi-même, cette personne est venue m'en parler. Ça m'a fait du bien en plus. Parce que l'objectif du Seigneur, c'est toujours le rétablissement et la communion avec lui et avec les frères et sœurs dans une unité dans l'Église qui est retrouvée. Et un dernier texte pour illustrer cette réalité. Qu'aimer, c'est se sentir responsable de l'autre et donc d'agir en conséquence. Galates chapitre 6, on peut y aller. On va lire seulement le premier verset. Galates chapitre 6, c'est du même acabit, mais important à apprendre, à lire. Galates 6, 1. « Frères, si un homme vient être surpris en faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur, prends garde à toi-même, de peur que tu ne sois aussi tenté. » Eh bien, ce passage-là, ce verset s'appuie sur le fait, on l'a dit tout à l'heure, de nous examiner d'abord nous-mêmes avant de reprendre quelqu'un d'autre, si ça doit être fait. Si j'aime, je vais me sentir responsable de la situation, du bien-être de mon prochain et en particulier de mon frère et de ma sœur en Jésus-Christ, que ce soit pour le soutenir, que ce soit pour l'aider, que ce soit pour le soigner, comme dans la parabole, que ce soit pour le consoler, prier avec lui ou prier pour lui, et même parfois l'avertir ou le reprendre si besoin. En revanche, je ne dois pas me sentir concerné, ou plutôt, pardon, responsable ou coupable, si le frère ne m'écoute pas, parce que ça peut arriver. L'obligation de résultat, vous savez, c'est dans les entreprises. Ah oui, ça on connaît bien pour ceux qui travaillent, encore. Surtout aujourd'hui, dans notre société. Mais dans le corps de Christ, Dieu me demande simplement d'être fidèle, de veiller et d'être pour les autres une sentinelle à la fois vigilante et bienveillante. Et c'est ça qui est important. Donc ne faisons pas semblant, ne nous taisons pas lorsqu'il faut parler, faisons comme ce Samaritain qui a pris ses responsabilités et s'est senti donc concerné par la situation de ce pauvre homme blessé. Mais il y a une deuxième, donc apprenons, frères et sœurs, à aimer comme Jésus nous a aimés. Il y a une deuxième caractéristique, alors qui va dans la continuité du fait de se sentir responsable, qu'on voit en filigrane aussi là, dans cette parabole. Et aimer comme Jésus aime, c'est aussi montrer et manifester mon soutien. Un soutien concret envers l'autre. C'est ça aussi, manifester le véritable amour de Dieu à travers moi-même. Si je puis le faire, Dieu m'en rend capable, en tout cas. Si j'aime, je suis touché ou je vais me laisser toucher par ce qui arrive à mon prochain. Ou à mon frère ou à ma sœur. C'est vrai que personnellement, j'ai regretté plus d'une fois, par exemple, de ne pas avoir pu assister à certaines cérémonies d'obsèques, parce que je n'ai pas pu. Et en y réfléchissant, je me suis dit, bon, je ne me sentais pas bien parfois, parce que j'aurais voulu être là, pour aussi participer à cet élan de soutien vis-à-vis d'une personne qui est endeuillée. Pour partager aussi avec tous ceux qui sont là leur tristesse et leur peine. Et lorsqu'une épreuve frappe un membre du corps, il ne doit jamais y avoir de doute ou d'hésitation ou de honte pour lui à partager sa souffrance avec les autres. Ça doit devenir même naturel dans le corps de Christ, parce que nous sommes tous frères et sœurs en Jésus. C'est ça le corps, en fait. Ça, c'est le plan de Dieu. Ne portons pas nos fardeaux tout seuls, si on a, mais partageons ce fardeau les uns avec les autres. Et à ce moment-là, vous savez bien qu'ils seront moins lourds à porter, parce que le fardeau est réparti sur les épaules de plusieurs. Si j'aime, je serai touché par ce qui arrive à mon prochain. Et combien c'est important pour celui qui en est le bénéficiaire, qui traverse une épreuve, quelle qu'elle soit, de savoir que cela touche aussi d'autres et que ces autres personnes prient ou me soutiennent dans cette difficulté-là, dans cette situation difficile que je traverse. L'amour véritable, c'est cela. Il dit à l'autre, ce qui est important pour toi, c'est important pour moi. Et je peux souffrir avec toi... même si ce n'est pas dans la même mesure, mais en tout cas, je veux partager cette douleur et de la traverser cette situation avec toi. 1 Corinthiens chapitre 12 nous le rappelle. Un verset qu'on connaît bien, mais on peut le connaître avec la tête, mais jamais le réaliser dans notre vie. Jamais. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 26 nous dit... Il s'agit de l'expérience du corps de Christ. Si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Mais si vous n'êtes pas dans l'église, comment cela est possible? C'est pas possible. C'est donc un encouragement à considérer les choses qui sont normales d'un point de vue de la parole de Dieu, à savoir faire partie de manière officielle d'un corps vivant, qui est le corps de Christ en action, qu'on appelle l'Église locale. Lorsque vous prenez un coup de marteau sur la main, et ça m'est arrivé plusieurs fois, le doigt ne fait pas que souffrir. C'est tout le corps qui souffre. Et alors, c'est tout le corps, pas seulement le doigt, qui va se mobiliser, parce qu'il en a connaissance, forcément, de cette souffrance du doigt. Eh bien, tout le corps va se mobiliser pour calmer la souffrance, calmer la douleur comme il peut. Et c'est comme ça que les choses vont mieux après. Alors, je vous concède volontiers, c'est pas facile pour les uns et les autres d'être dans une telle démarche d'esprit. Parce que on va se dire, mais chacun a ses propres difficultés personnelles, ses soucis de tous les jours. Eh bien oui, mais porter les souffrances des autres, prendre soin des autres d'une manière concrète, c'est donc pas naturel. Vous conviendrez avec moi. Et donc, il est nécessaire pour nous de considérer que cet acte de soutien et de bienveillance de manière vraie, concrète, comme, et une manifestation de l'amour de Dieu dans nos cœurs que produit le Saint-Esprit en nous. Dieu nous rend capables de partager les difficultés, les épreuves, la souffrance d'un frère ou d'une sœur. D'ailleurs, le Seigneur ne nous a jamais demandé d'ôter la souffrance, de faire quoi que ce soit pour qu'il n'y ait plus de souffrance. Et d'ailleurs, Jésus lui-même ne l'a pas fait toujours. Et vous vous rappelez, lors de cette situation dramatique pour les trois compagnons de Daniel, ils ont été jetés dans la fournaise ardente, vous connaissez cette histoire. Et puis Dieu, est-ce qu'il les a délivrés de cette fournaise en les retirant? Pas du tout. Il a compati à leur souffrance. Et la parole de Dieu nous dit qu'un quatrième homme est apparu. Et ils se sont trouvés donc directement dans la présence de Dieu. Et donc ils ont dû se dire, voilà, nous sommes désormais rassurés, quelque part, parce que le Seigneur Dieu est avec nous dans l'épreuve. Et là, vous savez que, ils étaient prêts à endurer cette épreuve jusqu'au bout. Ce qui était important pour eux, c'est dans l'épreuve être dans la présence de Dieu. Et la présence de Dieu, elle est manifestée par l'Église. Et Galates, si vous avez gardé un doigt dessus, nous donne la suite. Donc Galates 6, verset 2. Je vous le lis. Et ça nous résume bien la situation. Portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Et la loi de Christ, c'est quoi? C'est l'amour. Voilà. L'amour que le Seigneur a eu pour nous et donc l'amour que je peux manifester d'une manière concrète à l'égard de mon frère ou de ma sœur. Aimer, donc, c'est être touché par ce qui touche mon prochain. Agir en conséquence. Et c'est ce que Jésus a fait pour nous quand il est descendu de sa gloire pour venir jusqu'à nous avec ceux qui souffrent, nous dit la parole de Dieu. On peut voir ça, c'est mon dernier verset, Hébreux chapitre 4. Hébreux chapitre 4 et versets 15 et 16. Souvent, nous lisons très vite ces versets. Parce qu'en Jésus, nous avons un souverain sacrificateur. Car, verset 15, nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Jésus est venu parce qu'il s'est laissé toucher parce qu'il nous touchait. On peut dire les choses comme ça. Il s'est senti responsable de ne pas laisser les hommes dans leur péché et mourir dans leur péché. Et il ne s'est pas dit « je compatis ». Débrouillez-vous. Il a été ému de compassion. Et de là, de la gloire où il était, eh bien, Dieu le Père comme Dieu le Fils ont été émus de compassion devant cette humanité pécheresse. Et cette compassion a poussé Jésus à sortir de sa gloire pour venir jusqu'à nous et venir nous secourir, nous aimer d'une manière concrète. Parce qu'il s'est senti pleinement responsable. Alors, frères et sœurs, manifestons de la même façon, notre amour les uns pour les autres. Premièrement, je le résume, en nous sentant responsables, concernés par la situation et le bien de mon prochain, et en particulier de mon frère ou de ma sœur. Et deuxièmement, toujours prêts à le soutenir, à le porter dans la prière, et à porter son fardeau avec lui ou avec elle. À ceci, nous dit la parole de Dieu, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Si vous avez de l'amour théorique, non. Le véritable, si vous avez de l'amour les uns pour les autres, donc mes amis, apprenons à aimer, à nous aimer comme Jésus nous a aimés. Avant de prier, on va prier et puis on va peut-être se séparer avec un cantique, le 69, Pierre, si tu veux bien, mais on va prier ensemble. Voilà. Avant. Merci notre Dieu pour ta parole qui souvent nous remet sur les rails de la vérité. Nous montre ou nous remontre ta volonté. Également le fait que tu veux que nous progressions dans ton amour pour que nous le manifestions à notre tour d'une manière concrète. Tu vois, Seigneur, toutes nos défaillances. Tu vois nos péchés même à ce sujet. Oh, je te prie, Seigneur, pardonne-nous d'abord. Fais-nous du bien par ta parole. Reprends-nous s'il le faut, s'il y a pour l'un ou pour l'autre ce matin une situation anormale. Je te prie que tu nous conduises par ton esprit à considérer ta parole comme la parole de Dieu, pleine de vérité, pour notre bien. Et pour le bien de ton corps, pour le bien de ton Église, afin qu'elle progresse, elle soit toujours plus transformée à l'image de celui qui nous a plus qu'aimés en Jésus-Christ. Donc, merci pour l'encouragement, l'exhortation que nous pouvons mener les uns envers les autres, dans l'amour de Dieu, toujours. Donc, apprends-nous, Seigneur, effectivement, à nous aimer les uns les autres comme Jésus nous a aimés. Nous te le demandons en son nom. Amen.